Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débriefe l'actualité tech comme chaque soir, vous le savez, 20h-21h, à la radio, à la télé, et puis après les replays, les podcasts, bien sûr. Avec ce soir, Victoire Rivaton, qui est consultante indépendante, fondatrice de Yo. Ben Marel est avec nous aussi en plateau, cofondateur et CEO de Briga. Et en visio, c'est Bruno Guglielminetti, journaliste, animateur de son podcast Mon Carnet de l'actualité numérique. Après avoir parlé d'Apple, du DMA, je vous invite maintenant à évoquer Intel. Et c'est une information business qu'on vous a donné, BFM Business qu'on vous a donné tout à l'heure. Intel met sur pause son projet d'implanter en France son centre de R&D européen. C'est la tuile. Après avoir perdu la bataille face à l'Allemagne pour attirer sa future gigafactory de puces en Europe, la France risque désormais de perdre son lot de consolation. On écoute les explications de Thomas Aspartas et on revient juste après sur le plateau.
Il y a 2 ans, l'Américain avait choisi Paris-Saclay pour installer son futur centre de recherche européen. Ça devait être la vitrine R&D d'Intel en Europe sur l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Le centre devait ouvrir cette année, embaucher 450 ingénieurs et jusqu'à 1 000 000 en 2030. Sauf que ce n'est plus d'actualité. C'est ce que nous a dit hier Intel en France. Le centre ne va pas du tout ouvrir cette année. En fait, on ne sait même pas s'il va ouvrir. Ouais. Parce que le groupe nous explique qu'il donne désormais la priorité au financement de ses gigafactories. C'est la top priority de l'entreprise, nous a dit la direction d'Intel France. Le groupe doit en effet financer des investissements colossaux partout dans le monde dans ses nouvelles usines. 100 milliards de dollars aux États-Unis, 25 milliards en Israël et 30 milliards d'euros en Allemagne. Et donc l'Américain doit faire des choix dans ses investissements. Et la France en fait les frais. Elle avait déjà perdu la bataille face à l'Allemagne pour accueillir la gigafactory d'Intel en Europe. Et maintenant, elle risque même de perdre son lot de consolation.
Voilà, donc dans la Coupe du Monde de la puce européenne, en 2022, rappelez-vous, on avait été numéro 2. Parce que le numéro 1, c'était l'Allemagne qui avait raflé, on va dire, le gros lot. C'était l'usine de fabrication de puces, avec un investissement de 30 milliards. Nous, on avait un peu le lot de consolation, avec quelque chose de moindre ampleur, mais qui était quand même intéressant. C'était ce centre de R&D qui devait ouvrir, et Thomas le disait très bien, en 2024. Sauf que depuis, pas mal de choses ont été bousculées du côté de chez Intel. Intel ne va pas si bien que ça et Intel est obligé d'investir et de faire des choix dans ses investissements. Et Thomas le disait, 30 milliards de dollars en Allemagne, 100 milliards de dollars aux États-Unis avec des usines en Arizona, en Oregon, en Ohio et au Nouveau-Mexique, 12 milliards en Irlande, 25 milliards en Israël. Et la France, là-dedans, Intel a regardé au fond de ses poches, il ne reste plus grand-chose. C'est triste. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Tiens, Ben.
C'est triste, oui, évidemment que c'est triste. On aurait préféré que le projet initial soit maintenu. Maintenant, ce n'est pas étonnant. Déjà parce que, je rappelle à tout le monde que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, 200 milliards à financer à 4%, ça fait quand même 8 milliards par an.
C'est pas pareil que...
C'est pas pareil qu'il y a 3 ans, hein, ouais. Où c'était zéro. Donc forcément, il faut les trouver. Et il faut savoir faire des économies, premièrement. Et puis, deuxièmement, on peut dire que Intel, effectivement, pour l'instant, est quand même en retard sur la bataille de tout ce qui est chip dédié à l'IA. Et donc, il faut qu'il rattrape. Et donc, cet arbitrage, il doit être fait. Alors, on est forcément déçus. On a forcément envie qu'on les voit revenir, de voir ce projet réapparaître. Mais pour l'instant, je comprends l'arbitrage d'une société qui, effectivement, souffre un peu dans la technologie du futur qui n'est pas celle sur laquelle ils sont en avance.
Voilà, Bruno. On est effacé donc des lignes d'Intel. Alors, on est toujours présent. Enfin, Intel est présent en France hein, depuis pas mal d'années avec une centaine de salariés. Pas énorme. 4 petits labos, un à Sophia Antipolis. Il y en a un autre à Grenoble, un autre à Moirans, c'est aussi en Isère. Voilà, qui sont là pour la recherche sur les antennes, sur la puissance de calcul, etc. Mais c'est vraiment une goutte d'eau hein, quand on voit la puissance d'Intel. Bruno, est-ce que ça veut dire que Intel est tellement, on va dire, acculé par l'IA et Nvidia qu'il est obligé de faire des choix? C'est ce que disait Ben, hein, en fait.
François, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils sont en train de vivre la pression de la concurrence et ils ont des choix stratégiques à faire. Et puis souvenez-vous, hein, quand même le gouvernement américain a investi des milliards et des centaines de milliards dans leur plan pour la fabrication de microprocesseurs aux États-Unis. Et donc, du côté d'Intel, on met énormément d'énergie maintenant sur ces plans qui sont en train d'être construits Les microprocesseurs seront pas, on les verra pas avant encore un moment. Mais donc, il y a énormément d'argent qui est investi là-dedans pour être capable de créer l'infrastructure pour répondre à la commande américaine. Et puis aussi, ben, évidemment ailleurs parce qu'il y aura de la commande. Mais c'est Nvidia qui fait de l'ombre, mais très sérieusement, aux gens d'Intel. Et encore, je voyais, moi, ici au Canada où on est, il y a une présence, un peu comme en France, il y a une présence d'Intel. Mais ça n'a rien à voir comme la présence américaine parce que c'est quand même leur pays. Et il y avait le patron d'Intel Canada qui se promène pour rencontrer les journalistes et essayer de les rassurer sur la présence d'Intel au Canada. Mais on voit bien que tout l'argent nord-américain, même l'argent américain, est installé aux États-Unis pour s'assurer que ça soit monté le plus rapidement possible, de façon la plus efficace, pour être capable de partir la production.
Et puis Joe Biden fait des chèques. Beaucoup de chèques, oui. 8 milliards et demi de subventions, 11 milliards de prêts qui ont été accordés pour la modernisation des usines, la création de nouvelles aussi, hein, Victoire. On voit que là, difficile de se battre contre les États-Unis.
Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une superbe opportunité pour l'Europe. Au contraire, alors c'est terrible pour le campus de Saclay, mais on commence à se poser la question de la souveraineté européenne dans l'IA. Et de comment on peut assurer cette souveraineté européenne. Donc moi, le fait qu'Intel n'installe pas sa R&D en France, je me dis qu'il y a de la place pour un acteur européen. On parle beaucoup de la course à la chip, de la course à la puce. En réalité, la chaîne de valeur de l'IA, elle est bien plus grande que ça. Aujourd'hui, il faut penser hardware, il faut penser software, il faut penser consommateur, créateur de LLM. Et moi, je trouve que c'est une formidable opportunité pour un acteur européen, éventuellement, de se positionner, de faire les bons partenariats et de réussir à prendre cette place.
Ouais. Après, il faut le trouver, le partenaire européen.
On va le trouver.
Bah, un ou des, d'ailleurs, parce qu'en fait, ça veut dire que...
Oui, ça peut être
on parlait d'un millier, à peu près, de talents embauchés par Intel. Ça veut dire que c'est un millier de talents qui seront disponibles en Europe. Voilà. Donc oui, je te rejoins un peu. Ça ouvre des perspectives aux boîtes européennes. Probablement pas un acteur, mais plusieurs acteurs en tout cas qui pourront bénéficier de ce savoir-faire. Et donc c'est plutôt une bonne chose.
Mais après, ça coûte très très cher de faire des puces. Une usine de fabrication de processeurs, c'est 100 milliards.
Oui, mais là, c'est des centres de R&D. C'est
oui, autre, alors, vois, donc, ouais, voilà. Mais si tu fais des centres de R&D, derrière, après, il faut que tu transformes tout ça. Autrement, ça sert à rien.
Il faut, alors, on commence par avoir les talents, on fait ouais. de la, tu vois.
Moi, je suis moins.
On fait de l'IP alors, et puis après.
Je suis plutôt d'un naturel optimiste tout le temps, mais là, sur ce coup-là, je le suis un peu moins. Et je sais pas, Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire émerger un géant des puces européens? En tout cas, pas un géant, mais en tout cas, un acteur sérieux.
Ben, un acteur, oui, dans le contexte où, c'est Victoire qui le mentionnait, que de plus en plus on parle sur tous les continents de la souveraineté au niveau de l'intelligence artificielle, l'info nuagique. Donc, c'est sûr que dans cette démarche, puis Mistral en est le plus bel exemple du côté de l'IA, je pense que ça serait important qu'à un moment donné, il y ait un vrai joueur européen qui est là et puisse être le répondant quand on parle de souveraineté territoriale dans le domaine du numérique en Europe. Mais de l'autre côté, moi, le seul point que je trouve dommage dans cette annonce-là que vous avez sorti, c'est le fait que, pour une fois, le savoir-faire français allait rester sur le territoire français. Et parce que sinon, vous êtes de par le monde à donner vos services, les cerveaux français, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, et il y en a dans d'autres pays en Europe, mais il y a très peu d'endroits au niveau du numérique, là, on s'entend, où il y aurait eu une concentration comme le projet d'Intel. Et en cela, le fait de le voir reporté, pour ne pas dire annulé, je trouve ça dommage.
Alors rappelons que ce centre de R&D à Saclay n'est pas annulé, et Intel encore l'a confirmé aujourd'hui, il est retardé, mais... Bon, voilà. Est-ce qu'après, on oubliera qu'il avait été annoncé?
C'est une annonce en douceur.
C'est une annonce en douceur. Mais on va suivre ça de près, on va se le noter.
Ouais. Hein.
Et de temps en temps, on reviendra sur le devant de la scène, puisque de temps en temps, on reçoit le patron d'Intel France. On lui posera la question. Autre chose maintenant, cela dit, on reste dans les puces. Mais cette fois-ci, des puces qui vont dans le cerveau. Et c'est quelque chose qui est vraiment vertigineux. Vous le savez, c'est le projet le plus fou d'Elon Musk avec Neuralink. Il veut relier notre cerveau à des ordinateurs grâce à des implants électroniques. Et l'entreprise donc vient de publier une vidéo de son premier patient qui contrôle, écoutez bien, un ordinateur par la simple force de la pensée. Anthony Morel, ce matin dans Good Morning Business, nous expliquait tout ça. On l'écoute.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de cette technologie. Il y a eu les essais sur les animaux. On savait qu'un humain
avait été implanté, puisque c'est ça dont on parle, un implant neuronal, et cet humain, ça y est, on l'a, les images de la première expérience réalisée par lui. Il s'appelle Nolan Arbo, il a 26 ans, il est tétraplégique depuis 8 ans, il a eu un accident de plongée, donc il n'a plus du tout l'usage de ses membres, et on le voit dans cette vidéo jouer aux échecs par la simple force de la pensée. C'est incroyable, donc il se concentre sur les pièces, sur l'échiquier, et il fait bouger le cavalier, le fou, d'une case à une autre.
Juste par la pensée,
juste par la
et
pensée,
la transmission.
Grâce à l'implant neuronal. En gros, le principe, je rappelle, de Neuralink, c'est un implant neuronal qui fait la taille d'une pièce de monnaie, donc on met ça dans le cerveau, ça va analyser et interpréter les signaux électriques qui sont envoyés par le cerveau quand on se concentre sur une action ou sur voilà, un mouvement sur le clavier, ou sur l'écran plutôt. Et on va envoyer cette information-là vers l'ordinateur, vers un smartphone, vers n'importe quel appareil électronique potentiellement. Donc le résultat, bah, c'est impressionnant, parce que c'est ce qu'il explique d'ailleurs ce jeune homme. Il dit « j'ai l'impression d'utiliser la force comme dans Star Wars ». Et c'est exactement ça. Donc il a joué à des jeux vidéo. Il faut noter quand même que c'est pas la première fois qu'on est capable comme ça de piloter le curseur d'une souris par la force de la pensée. Il y a des laboratoires de recherche, y compris en France d'ailleurs, qui sont assez en pointe dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant avec Neuralink, c'est tout le projet qu'il y a derrière, puisque Elon Musk imagine qu'avec ses implants, on pourrait guérir tout un tas de handicaps ou de maladies. Ça va de la paralysie, on pourrait piloter un exosquelette, pourquoi pas, avec ces implants, à des maladies comme la dépression, comme la schizophrénie, la cécité même d'un handicap, comme le fait d'avoir perdu la vue. Il n'explique pas exactement comment, mais en tout cas, c'est les pistes de recherche qui sont poursuivies.
Alors évidemment, c'est impressionnant. Pour continuer sur ce sujet avant de vous donner la parole, on va vous diffuser un petit bout de la vidéo qui a été postée sur Twitter, bien sûr, qui met en avant en fait le handicap de cette personne et qui explique en fait ce que ça lui change au quotidien. Écoutez cette vidéo.
Yeah, my name's Nolan Arbo.
Je m'appelle Nolan Arbo. J'ai 29 ans. Il y a environ 8 ans, j'ai été victime d'un accident de plongée. Je suis paralysé sous les épaules. Avant, je devais utiliser un joystick ou d'autres choses. Maintenant, je fais tout avec mon cerveau. Si vous voyez le curseur qui bouge sur l'écran, c'est moi qui fais tout. C'est plutôt cool, non ?
Alors, qui commence là-dessus ? C'est toujours impressionnant. Anthony le disait, Neuralink n'est pas le seul à faire ça. Hein. On a le CEA, à Grenoble, qui, rappelons-le, est, grâce à un implant dans le cerveau, est arrivé à faire remarcher quelqu'un qui était paralysé. Hein. Alors, évidemment, avec des aides, etc. Mais la personne arrivait à faire des pas, en tout cas, ses jambes l'une devant l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est... l'une des innovations les plus bluffantes que vous ayez jamais vues. Tiens, Victoire, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, moi, je suis très heureuse de voir que ce patient est vivant. Parce que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, on en avait discuté. On s'était dit qu'il y avait certains singes qui y étaient passés lors des tests et que c'était quand même très opaque. Elon Musk communiquait, mais qu'on n'avait pas le nom du patient. On ne l'avait jamais vu. Donc déjà, moi, je me réjouis qu'il soit vivant. Je me réjouis qu'il soit assez en forme pour parler, communiquer et faire des tests.
Mais il a l'air souriant et plutôt heureux de ce qui lui arrive, hein.
Il a l'air de faire une super partie d'échecs. Donc, quand on joue aux échecs, on est heureux. Et au-delà de ça, non, c'est pas l'innovation la plus bluffante qui m'ait été donnée de voir. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la taille du chip implanté dans le cerveau. Les autres recherches, c'était quand même des dispositifs beaucoup plus gros qui ressortent du crâne avec des risques d'infection. J'attends de voir la suite. Je me dis qu'ils nous ont juste donné un léger aperçu et que dans les semaines à venir, ils vont continuer à nous épater.
Bruno, c'est impressionnant, bien sûr, et c'est que le début de cette histoire de Neuralink qui sera sans doute l'une des plus belles entreprises, en tout cas si ça continue comme ça, d'Elon Musk. On est d'accord?
Oui, et c'est drôle parce que j'étais là sur le plateau virtuellement le même soir qu'à Victoire et effectivement, on soulevait tous la question du fait que on va attendre de voir la personne qui a reçu cet implant pour voir comment elle va. Puis là, déjà, c'était une bonne nouvelle de le voir. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on est au début de quelque chose. Le CEA l'a fait. Là, on a affaire à quelque chose qui est encore, j'allais dire, moins intrusif, mais quand même, ça nous joue dans le cerveau, mais qui a moins de risques d'infection de l'extérieur, en tout cas. Et on est qu'au début, on s'entend. J'ai l'impression de voir un peu comme les premiers envolés d'une fusée vers l'espace. Et puis après, ils ont été marchés. Et puis aujourd'hui, quand on regarde Elon Musk avec sa compagnie qui fait du l'aller-retour presque comme un avion commercial, on se dit « Wow, on est rendu là ». Ben j'ai un peu l'impression qu'avec Neuralink, c'est ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand on regardera cette première vidéo où on voyait cet homme paraplégique être capable de jouer aux échecs, on se dit « On en a fait du chemin depuis ce temps-là ».
Ben?
Ben moi, je suis sur...
Toi, en tant qu'investisseur, est-ce que, franchement, ça te, c'est voilà, il y a des perspectives incroyables avec Neuralink aujourd'hui. Ah
ben c'est dingue. Moi, je suis complètement sur les fesses pour rester poli, ouais. Ouais, carrément. Parce que tu vois, voir quelqu'un handicapé...
On parle beaucoup de fesses ce soir, entre les chiens...
C'est vrai qu'on a passé des animaux...
Ça fait beaucoup, hein, quand même.
Fait, ouais. Ah.
Mais bon.
Quelqu'un qui, malheureusement, suite à un accident, est tétraplégique, qui arrive à retrouver comme ça une forme de contrôle presque surnaturel sur les éléments, moi, je trouve ça...
Oui, il le dit lui-même, il a fascinant. L'impression d'être un héros de Star Wars.
D'être Maître Yoda, bien sûr. Donc, ouais. Tu vois, c'est quand même dingue. Et donc, effectivement, on est qu'au début de ce que ça pourrait faire, mais ça laisse imaginer des perspectives hallucinantes. Et donc, ouais, tu le disais, une des sociétés d'Elon Musk les plus folles, les plus impactantes peut-être. Effectivement, si on arrive à redonner la marche, la parole, la vue, le mouvement, et même à créer ces êtres humains presque
augmentés
par la technologie, c'est quand même bluffant. Alors après, comme toute innovation technologique, ça vient avec le cadre qu'il faut arriver à mettre autour pour pas qu'il y ait de dérive, évidemment. Ça a été dit, hein, il y a eu des ratés sur les singes. On voit bien que c'est fait aussi aux États-Unis où les gens donnent un peu leur corps à la science plus facilement qu'en Europe. Je pense que typiquement c'est des choses plus difficiles aussi, hein, ce genre de choses. Et on imagine aussi malheureusement les dérives qui pourraient y être associées. Donc mais moi, je ne peux qu'être bluffé par un truc pareil. Ouais.
En tout cas, ce premier patient a du courage, hein, parce que c'est vrai que, enfin, c'est historique.
C'est le Yuri Gagarin de la.
Non, mais c'est clair.
Ouais, c'est sûr.
C'est clair.
Elon Musk a une fanbase.
Ouais, impressionnante.
Impressionnante, et je pense que piocher dans sa fanbase pour aller tester Neuralink, c'est pas très complexe. D'ailleurs, j'ai vu un truc assez rigolo aujourd'hui sur X, sur la fameuse fanbase d'Elon Musk. C'était les mêmes qui hurlaient contre Bill Gates en disant avec ses vaccins, il va nous mettre des microchips dans le sang, qui seraient les premiers à lever le doigt pour aller se faire implanter chez Neuralink. J'ai trouvé ça très très drôle.
Oui, c'est clair. Après, bon, c'est vrai que pour l'instant, ces implants, évidemment, c'est pour des personnes qui sont totalement paralysées et qui, j'allais dire, n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire que ça vaut le coup pour eux de tester quelque chose qui peut leur permettre de reprendre un peu de la mobilité ou en tout cas une certaine interaction avec la vie, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est la stratégie d'Elon Musk, hein, puisque demain, il souhaiterait installer ses puces sur des personnes qui n'ont pas de problème de santé, simplement pour les augmenter, pour réfléchir plus vite, pour encore mieux concurrencer l'intelligence artificielle, hein. C'est ça le fantasme d'Elon Musk, parce qu'il se dit que demain, l'IA sera beaucoup plus rapide que nous, et grâce à ces chipsets, on pourra peut-être avoir un homme augmenté, c'est ce que tu disais aussi. C'est quand même assez bluffant. Bruno, là, on part un peu dans les délires d'Elon Musk, non, quand même?
Oui, ben tant qu'il ne branche pas cette puce de Neuralink à son croc, je pense que tout est beau. Il ne faudrait surtout pas que ça soit relié, parce que là, j'ai l'impression qu'il pourrait se faire même poursuivre pour risque à l'humanité.
C'est vrai. Grok, rappelons-le, qui est le système d'intelligence artificielle générative d'Elon Musk, qu'on n'entend pas beaucoup, hein, voilà, qui est un peu retranché pour certains abonnés premium de X, etc. Mais voilà. Il nous reste 3 minutes. Tiens, un petit élan de nostalgie que Bruno voulait nous évoquer. C'est Nokia. Tu voulais nous parler du retour d'un téléphone emblématique, Bruno, qu'on a utilisé. Alors peut-être pas Victoire, parce que je ne sais pas Victoire si à l'époque tu étais prête à utiliser des téléphones portables.
J'ai eu de la chance, j'avais des parents très modernes, donc j'ai eu un téléphone très
jeune.
Et si mes neveux et nièces me regardent, je nierai ce que j'ai dit sur ce plateau.
D'accord, c'est très bien. Oui, Bruno, c'est le retour du bon vieux Nokia 3210. C'est ça?
Exactement, qui était presque l'équivalent d'un marteau à l'époque. On pouvait planter des clous, on pouvait l'échapper, on pouvait le reprendre.
Autonomie d'une semaine, hein, rappelons-le.
Oui, et on pouvait fonctionner avec ça pendant des journées, tellement l'autonomie était bonne là-dessus. Et puis aujourd'hui, ben, on apprend que, en premier, on pensait que c'était une blague, mais on apprend que ceux qui exploitent maintenant la marque de Nokia vont officiellement ressortir le modèle. D'autant plus que chez la génération Z, l'utilisation des bons vieux téléphones ou à clapet ou de ce type-là, là, les 3210, commence à retrouver de la popularité, justement parce que les gens veulent essayer de se débrancher. Alors, sur un 3210, oubliez d'essayer de faire rouler des applications, ça ne fonctionne pas. Oubliez Tinder, oubliez TikTok, vous pouvez recevoir des SMS, vous pouvez en envoyer et peut-être jouer au serpent, mais plus que ça, ça va être assez difficile. Mais ça vous servira à recevoir et faire des appels et savoir quelle heure il est. Alors, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal. Ça va être exactement le même que celui de l'époque?
C'est ce qu'on dit.
Waouh. Bon, cela dit, au moins, celui-là n'embêtera pas le DMA, hein, parce que franchement, on sera tranquille, on ne pourra pas faire grand-chose. Ben, c'est intéressant de voir aussi ce retour de la vieille technologie, après les vinyles, et voilà, et cette génération Z que évoquait Bruno, qui voilà, trouve intéressant d'avoir un téléphone avec lequel on ne fait que téléphoner. Je ne sais pas trop s'il garderait longtemps, hein, quand même, hein, parce que
ouais, je sais pas,
scroller TikTok avec un 3210, c'est pas facile.
Il y a l'envie, puis après, il y a le retour au réel, mais c'est vrai que c'est à la croisée des chemins entre cette forme de nostalgie, tu le disais, qui revient très souvent, et on voit ressortir comme ça des objets un peu iconiques qui reviennent, et cette envie aussi d'une partie de la population de se débrancher, bien sûr, d'être moins dépendante du mobile, une envie des parents aussi pour les enfants de les mettre dans un environnement beaucoup plus sécure en fait, et de retrouver un monde dans lequel, eh bien oui, effectivement, on a peut-être envie d'avoir une capacité à appeler ou à texter ses enfants, mais sans qu'ils soient ouverts sur le monde de l'internet avec ses bons côtés mais ses possibles dérives. Donc oui, je pense que ça c'est un coup de marketing assez smart à mon avis.
Ça va être le smartphone punition.
Mais moi, je trouve que c'est une belle arme contre le cyberharcèlement.
Oui, en fait. Aussi.
Aujourd'hui, il y a un tiers des ados qui déclarent avoir déjà subi de la violence en ligne. Ce serait formidable de se dire qu'ils peuvent garder un téléphone, mais quand ils rentrent à la maison, bah, ne plus être exposés à des contenus violents. Ça me donne, en tant que jeune maman...
Après, le harcèlement pourrait continuer par SMS. Mais il serait pas aussi puissant.
Je sais pas si tu te souviens, c'était quand même plus long de taper des textos à l'époque qu'aujourd'hui. Donc
le T9, c'est quand même une tannée. Hein.
Les harceleurs se fatigueraient les pouces assez rapidement.
Vous vous souvenez du T9? C'était un truc de dingue quand même. Il fallait en fait appuyer. Enfin, il y avait toute une combinaison chaque chiffre correspondait à une lettre suivant le mot qu'on écrivait. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Et oui, c'était l'époque aussi. On se souvenait des numéros de téléphone mobile de ses proches.
Maintenant, je m'en souviens encore. Hein.
C'est vrai.
Exact. Bah ouais.
Et ben voilà, moi 2-3 peut-être, mais pas plus.
Le seul que je connais pas, c'est celui de mon mari. Je l'ai rencontré trop tard.
Mais voilà, il est passé à côté. Merci beaucoup Victoire, merci d'être passée par le plateau de Tech & Co. Victoire Rivaton, consultante, Ben Marel, cofondateur et CEO de Briga, merci Ben.
Avec plaisir.
À très bientôt.
Très vite.
Et merci à Bruno Guglielminetti. Le podcast Mon Carnet est prêt, ça y est, il arrive quand là, le prochain?
Ça sera en ligne demain matin à votre réveil.
Et ben voilà, allez, dès le réveil, on aura le prochain numéro du podcast de Bruno Guglielminetti.